pour Poussin, le grand homme, c'était pas Descartes, comme dont on vient de nous parler brillamment, mais le grand homme pour Poussin, dans le domaine des lettres, c'était Montaigne. C'est d'ailleurs une chose intéressante et qu'on découvre en ce moment. Poussin, grand lecteur de Montaigne, ce qui est un peu une déconquête de l'histoire de l'art de ces dernières années. Mais évidemment, ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais tout d'abord remercier le professeur Carlo Ossola, d'abord des paroles très aimables qu'il a eues à mon égard, excessives bien entendu, mais aussi de m'avoir invité pour cette journée qui s'annonce passionnante et vraiment très stimulante par les thèmes qui vont y être abordés. Parmi les thèmes de cette conférence, parmi les mots qui ont été répétés, qui ont été mentionnés, il y a le mot « transmettre ». Et en effet, transmettre, c'est absolument crucial en ce qui concerne Poussin, qui est un peintre très difficile. Poussin est un peintre qui a mis la barre très haut. C'est un peintre difficile, il n'est pas facile de pénétrer dans son univers. En fait, il n'a que deux publics très différents, mais en même temps très sympathiques, si j'ose dire, d'une part les historiens d'art. C'est sans aucun doute le peintre sur lequel on écrit le plus. C'est le peintre français sur lequel on écrit plus que sur Cézanne. Et j'en souffre d'ailleurs, puisque le nombre d'articles qui m'arrivent presque tous les jours sont impressionnants, dans toutes les langues bien sûr. Mais il a un autre public, et il l'a eu de tout temps, et un public évidemment captivant et capital, c'est celui des artistes. Poussin a été adoré par les artistes, que ce soit déjà de son vivant, le cavalier Berlin, quand il arrive à Paris en 1665, l'année de la mort de Poussin. Au fond, il n'aime pas du tout Paris. Bon, il y a Louis XIV, le buste du roi, tout ça, ça l'occupe. Mais la seule chose qui vraiment le passionne, c'est d'aller de maison en maison à Paris pour voir les tableaux de Poussin qu'on ait pu voir. Donc, Poussin vraiment est un peintre difficile d'accès, et en effet, il a toujours eu cette chance d'être admiré profondément par les artistes. Je parlais du Bernin qui court Paris pour voir les tableaux de Poussin, mais évidemment, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, la liste des artistes qui ont eu une passion pour Poussin est très longue. Naturellement. Ça commence avec Reynolds, David, Ingres, Cézanne, mais aussi Picasso, bien entendu. Mais Picasso, par exemple, ça, c'est l'image d'avant. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Picasso, par exemple, qui a beaucoup admiré ce massacre des innocents auquel le professeur Carlo Ossola faisait allusion tout à l'heure, qui est conservé à Chantilly, qu'il a beaucoup admiré, et en effet, c'est une des sources incontestables, y compris de Guernica. Picasso a été un inconditionnel de Poussin. Il y a des petits films de Picasso admirant des livres sur Poussin. Donc cette gloire de Poussin auprès des artistes est constante, et deux artistes aussi différents qu'à Victor Arica d'un côté et Jeff Koons de l'autre, l'un qu'il a exposé et qui a écrit sur lui, l'autre qui le collectionne, prouve en effet cet amour profond que les artistes ont eu pour Poussin, et parce qu'en effet Poussin, je le dirai tout à l'heure, a abordé des thèmes que tous les artistes de tous les siècles ont voulu traiter avec plus ou moins de bonheur. Je conclue cette petite introduction en vous disant simplement que pour moi, Poussin est le plus grand peintre français. Je voudrais mettre cette première partie de mon intervention sous l'image de Willibald Zauerländer. Willibald Zauerländer qui vient de mourir il y a quelques jours. Il est mort à l'âge de 96 ans, au mois d'avril, le 18 avril très précisément. Était sans doute le plus grand historien d'art allemand. Il a joué un rôle très important dans la mesure où il a été l'artisan du rapprochement des historiens d'art allemand et des historiens d'art français après la guerre. Il était un grand médiéviste, des plus grands médiévistes de notre époque. Il s'est beaucoup occupé de Poussin, et pour ça, il a écrit, je reviendrai dessus très prochainement, un article dans le Münchner Jahrbuch en 1956 sur les saisons qui a fait sensation. Les saisons dont je vais maintenant parler un petit peu, parce que justement Willibald Zauerländer a joué un grand rôle dans la compréhension de ces quatre tableaux. Vous savez tous l'histoire des saisons de Poussin, que le duc de Richelieu, le neveu du cardinal, commande, ce qui n'est pas sûr, qui arrive à Paris en 1665, et qui font tout de suite admiration des membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Alors, il y a une grande discussion et qui se fait à ce moment-là, et vous voyez l'été, qui est le tableau favori de Bourdon. En revanche, c'est le printemps qui est le tableau que préfère Lebrun, Et Brienne, qui est un personnage très intéressant dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, lui préfère évidemment l'hiver, le tableau le plus célèbre peut-être de Poussin, et le tableau le plus tragique et celui sur lequel je reviendrai. Louis XIV manquait de Poussin, il en voulait à tout prix, et il en fallait pour sa collection, le duc de Richelieu en avait toute une série, comment faire pour que les Poussins du duc de Richelieu entrent dans la collection de Louis XIV, comment faire, les grands nobles de l'époque n'avaient pas le droit de faire de commerce ou de vendre au roi. Il y a donc eu à ce moment-là une partie de jeu de paume entre le roi et le duc de Richelieu. C'est naturellement une partie de jeu de paume qui était perdue d'avance par le duc. Il ne s'agit pas pour lui de gagner contre le roi une partie de jeu de paume. Et naturellement, donc, l'enjeu de cette partie de jeu de paume, c'était les tableaux, les 13 poussins du duc de Richelieu. Naturellement, ayant perdu la partie de jeu de paume, les 13 poussins en question, y compris les saisons, sont entrés dans les collections de Louis XIV, où ils sont naturellement toujours aujourd'hui sous au Louvre, bien entendu. Cette partie de jeu de paume est intéressante dans la mesure où, là aussi, si vous voulez, l'anecdote est archi connue, on la répète. Et en fait, j'ai essayé d'essayer de comprendre si vraiment cette partie de jeu de paume. Je conclue en disant qu'évidemment, le duc de Richelieu a reçu de la part du roi 50 000 livres, qui était à peu près le prix de la collection, un cadeau du roi. Et en fait, c'était une manière déguisée pour le duc de Richelieu et pour Louis XIV de faire commerce. Je me suis beaucoup interrogé sur cette partie de jeu de paume. J'ai essayé de retrouver où elle pouvait avoir lieu, si vraiment elle avait lieu, et je crois que, vous voyez que déjà tout de suite les questions se posent, je crois que c'est du domaine de la légende. Je crois que la partie n'a pas eu lieu et que tout simplement on a voulu, qu'il y a eu une sorte, qu'on a raconté l'histoire de la partie de jeu de paume pour faire passer une opération commerciale de cette manière-là. Alors les saisons, je reviens à elles. Ce sont naturellement les quatre saisons que vous connaissez tous. Ce sont aussi les quatre heures du jour, du matin frais jusque naturellement la soirée tardive, la nuit la pire. Ce sont aussi, là vous voyez, ce printemps très frais, très plein d'espérance. Et puis naturellement les autres saisons que vous connaissez aussi, l'été avec l'histoire de... Mais c'est aussi les quatre âges de la vie, avec Adam et Ève naturellement. Ce sont aussi les quatre épisodes bibliques essentiels, Adam et Ève naturellement, Ruth et Boaz, et l'automne avec la grappe de Canaan, et l'hiver bien entendu. Mais c'est aussi quelque chose de bien plus important en un certain sens, et c'est là-dessus qu'évidemment se sont interrogés les historiens d'art du passé, et notamment Willibald Solander dont je parlais. Dans l'article 56, il a eu une interprétation extraordinairement provocatrice à l'époque, et qui voulait surtout insister sur l'aspect chrétien des quatre tableaux, l'aspect chrétien. Il a d'ailleurs lui-même, je en dirai un mot tout de suite, évolué sur sa pensée, et il s'est tout de suite opposé dans ces années-là à celui qui était à l'époque, et qui l'est resté d'ailleurs, le plus grand historien d'art qui s'est consacré à Poussin, Blunt, Sir Anthony Blunt, que vous connaissez tous pour d'autres raisons que celles de son activité d'historien d'art, hélas, et qui, lui, au contraire, avait une conception païenne des tableaux, et qui... Pour lui, les tableaux étaient une méditation sur le sens. Attendez, je vais vous montrer peut-être. Je vais faire marche arrière quand même. C'est une méditation sur le sens de la vie de l'homme et sur le sens de sa mort. Et c'est en effet aussi une manière d'interpréter ces quatre tableaux, une grande réflexion en effet sur ces grands thèmes. Alors, tableaux religieux, tableaux au contraire d'une pensée plus profonde, plus mystique. Plus philosophique, la discussion a à ce moment-là commencé et n'est pas encore aujourd'hui achevée. En 2005, Willibald Solander revient en effet sur son article de 1956 et il essaie de donner, il s'offusque contre les multiples surinterprétations qui ont été données pour ces quatre tableaux et il revient à une lecture, disons, plus raisonnée, plus rationnelle, plus de ces quatre tableaux. Il a notamment écrit un texte, le professeur Solal le mentionnait tout à l'heure, dans le catalogue Poussin Nature, l'exposition de Bilbao et du Metropolitan, un texte où, en effet, il fait preuve d'une sagesse, d'une compréhension de ces quatre tableaux absolument extraordinaire et évidemment et très importante pour l'interprétation de ces quatre immenses chefs-d'œuvre. Il avait intitulé son article « Réflexion sur le sens des paysages de Poussin ». Et en fait, Willy Balzerwender, peu avant sa mort, prévoyait, était en train d'écrire, est en train d'écrire un livre sur Poussin paysagiste. Et j'avais conclu une notice de 2015 dans un catalogue par cette phrase: on attend avec impatience l'ouvrage de Willy Balzerwender sur les paysages de Poussin, dont la parution est imminente. J'espère que l'ouvrage prendra, verra le jour assez prochainement et qu'il a pu l'achever. Poussin, bien sûr, il y a eu cette grande querelle qui a opposé donc Zauländer et Blunt, mais il y a aussi un troisième homme qui s'est mêlé de toutes des saisons, si j'ose dire, pour qui un troisième grand poussiniste, qui est Sir Denis Mahon, qui est un Anglais qui est mort il y a peu de temps, très âgé, il avait plus de 100 ans, et qui, en 1962, est intervenu dans la grande bataille poussinienne, dont je parlerai tout à l'heure, en insistant sur un autre aspect de l'œuvre de Poussin, qui était Poussin peintre, pour s'opposer au Poussin philosophe de Blunt. Poussin peintre, grand artiste, ou Poussin philosophe, c'est-à-dire est-ce que l'exécution, la manière de peindre, l'emporte sur la philosophie, ou est-ce qu'on peut concilier ces deux interprétations? C'est vous dire que les saisons sont au cœur, au fond, de toutes les discussions qu'on peut avoir sur Poussin. Naturellement, elles ont été considérées toujours comme le testament artistique de Poussin, mais reste à nous à se poser différentes questions. Qu'a-t-il vraiment voulu dire? Est-ce que la conception de Poussin est une conception profondément pessimiste? Je vous rappelle que le dernier tableau, l'hiver ou le déluge, donne l'impression d'être un tableau de fin du monde. Est-ce que ces quatre tableaux qui nous racontent donc les quatre âges de l'homme, c'est aussi la fin du monde? Ou est-ce qu'on peut avoir espoir? Parce que, comme vous le pouvez voir sur cette image, moi je la vois très mal, mais vous la voyez mieux que moi, on y distingue d'une part l'arche de Noé, donc un espoir, et d'autre part ces serpents qui sont si présents chez Poussin, qu'il a toujours adoré, qui ne sont pas d'ailleurs sur le Adam et Ève, comme on pourrait le croire, du printemps. Ces serpents qui sont, qu'on voit dans d'autres tableaux de Poussin, sur le serpent d'airain, Salvateur, donc serpent d'airain, c'est l'image de Moïse, Salvateur, mais qu'on voit aussi évidemment sur d'autres tableaux de Poussin et qui sont des symboles de fécondité. Donc ces quatre tableaux, absolument capitaux, d'une grande richesse d'interprétation et de lecture, ces magnifiques tableaux du point de vue esthétique, ces quatre tableaux nous laissent en fin de compte sur une grande question. Est-ce que Poussin avait une vision absolument pessimiste de l'humanité? Est-ce que le déluge, c'est la fin du monde? Ou est-ce qu'au contraire, on peut, grâce à ces serpents, avoir un petit espoir? De toute façon, je crois que chez Poussin, il y a toujours, comme c'est si souvent chez les très grands artistes, c'est une ambiguïté. Les peintres n'ont pas à répondre aux questions, ils ont à les poser. Et en l'occurrence, je crois que celle que pose là Poussin, je veux dire, est-ce que nous sommes condamnés? Est-ce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre cycle humain? C'est évidemment assez extraordinaire. Alors évidemment, je reviens à mon point de départ. Traiter ce genre de sujet, de cette richesse, demande un effort que nous ne sommes plus habitués à faire devant les tableaux. Et chez Poussin, l'effort est considérable. Alors je console ceux qui... Enfin, je peux ajouter une toute petite parenthèse, c'est que, en dehors des artistes et des historiens d'art, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Poussin, beaucoup, beaucoup, il faut le reconnaître, et qu'une fois qu'on est tombé dans la marmite Poussin, on n'en sort plus. C'est un peintre, évidemment, absolument extraordinaire. Jamais peut-être, écrit un de mes collègues, dans toute l'histoire de la peinture, occidentale, des choses aussi nombreuses et parfois difficiles n'avaient été traitées, dites avec autant de simplicité. Alors, est-ce que c'est la préséance des idées sur l'exécution, la capacité de la peinture de pleinement les traduire? Est-ce que c'est ça qui fait la grandeur de Poussin? Je le pense. Je voulais quand même vous montrer ce petit détail, car en fait, comme vous pouvez le constater, Poussin, le vieux Poussin qui tremble de la main, qui a du mal à tenir ses pinceaux, c'est, qui nous sommes poussés à la veille de sa mort, n'est pas un grand, c'est pas techniquement un grand peintre. Les grands peintres de l'époque avaient des capacités techniques bien plus considérables. Ils savaient mieux peindre, pour dire les choses très simplement. Il faut, en effet, même Le Bernin, admiratif, je le répète, inconditionnel de Poussin, malgré le fait que les deux esthétiques sont complètement différentes. Poussin, c'est le symbole, entre guillemets, du classicisme, ça ne veut pas dire grand-chose, et Bernin est le symbole, entre guillemets, du baroque, ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Malgré donc cette... Mais le Bernin a du mal avec les tableaux tardifs de Poussin parce qu'il le reproche, il reproche à ses tableaux, il reproche à Poussin les faiblesses techniques. Vous pouvez voir là, les mains sont exagérément grandes, ce n'est pas un grand virtuose, mais évidemment, Poussin s'est dépassé cette faiblesse, et aujourd'hui, au fond, ces faiblesses de la fin de la vie de Poussin font encore que l'admiration que nous lui portons est encore plus grande. Bon, j'en viens maintenant véritablement à Poussin. C'était une petite introduction un petit peu développée, mais je voulais rendre cet hommage à Willy Balzauländer, un médiéviste qui s'est converti à Poussin, qui est tombé dans la marmite, comme je voulais dire, et un homme dont, je le répète, qui a joué un rôle absolument essentiel dans ce rapprochement entre l'Allemagne de l'après-guerre et nos pays occidentaux, et qui a fait que l'histoire de l'art allemande a pu reprendre une place qu'elle avait perdue, bien sûr, pour des raisons faciles à comprendre. Je ne sais pas très bien comment aborder les questions nombreuses qu'on peut se poser à propos de Poussin. Bien sûr, la première question qu'il faut se poser, est-ce que nous en savons plus ? Est-ce que nous avons fait des progrès dans notre connaissance de Poussin ? Bien sûr, la peinture ne progresse pas, mais l'histoire de l'art, le progrès. Dans le cas de Poussin, il ne faut pas oublier que jusque dans les années 60, il était considéré comme un peintre académique, symbole. Et puis qu'il y a eu cette espèce de grande révolution de l'exposition Poussin de 1960 au Louvre, qui a réveillé un peu les consciences. Et puis depuis, le nombre de poussinistes est considérablement accru. Il y a eu toute une série d'expositions consacrées à Poussin. Les historiens d'art se sont multipliés. Et je dois dire qu'aujourd'hui, évidemment, la littérature sur le peintre s'est considérablement accrue. Je vais surtout, bien sûr, évoquer un peu ces progrès qui ont pu être faits ces dernières années, ces progrès dans notre connaissance de sa vie comme de son œuvre. Je laisserai pour plus ou moins ma conclusion, si j'en ai le temps. D'abord, je aborderai en conclusion, le domaine qui était resté le plus méconnu de l'œuvre de Poussin, c'est Poussin avant son départ pour Rome. Vous savez qu'il naît en 1594 aux Andelys, je vous parlerai en conclusion des Andelys, qu'il arrive à Rome en 1624, il a 30 ans. C'est un âge déjà où, en principe, un peintre est formé, et qu'en fait, depuis, on connaît assez bien sa vie de 24 à sa mort en 1665. Mais cette période d'avant 1624 était en fait le grand mystère sur Poussin. Je conclurai là-dedans, je conclurai sur ce point, parce que justement, maintenant, on commence à y voir un peu plus clair sur ce Poussin d'avant 30 ans. Alors, la vie de Poussin, je ne vais pas vous la résumer, je viens d'en dire quelques mots tout de suite. Je vous montre naturellement les deux admirables autoportraits, le Poussin intime de Berlin et le Poussin solennel du Louvre. Le Poussin maître de lui, mais avec quand même les paupières rougies, une image extraordinaire d'une fierté, d'un orgueil, mais en même temps d'une humilité vis-à-vis de la peinture extraordinaire. Vous voyez sur la droite du tableau cette femme avec ses bras qui l'encercle, cette femme, c'est l'amitié. Et les bras qui l'encerclent, c'est parce que le commanditaire du tableau est à Paris, Poussin est à Rome. Et c'est une manière de dire, la distance est là, mais la peinture nous unit et mes bras vous encerclent. Chez Poussin, tout veut dire quelque chose et tout est dit d'une manière simple et toujours émouvante. Donc, c'est une vie bien connue, mais en fait, et là, c'est peut-être une petite chose un peu nouvelle sur laquelle il faudra, dans les prochaines années, insister. Cette vie qui a été répétée par tout le monde, que vous trouverez dans le Larousse, que vous trouverez partout, elle repose sur deux sources. Ces deux sources, c'est d'une part Félibien et d'autre part Bellori, du moins Bellori d'abord, puis Félibien. Tous les deux ont connu Poussin. Tous les deux, Bellori bien, Félibien l'a bien connu également, ont écrit des vies de Poussin qui sont répétées religieusement avec grande vénération. On oublie toujours que ces deux messieurs n'ont fait rien d'autre que d'écouter Poussin lui-même, qui a bien voulu leur dire ce qui l'arrangeait. Et en fait, nous vivons en fait sur une vie de poussin, un peu. Et maintenant qu'on connaît un petit peu mieux cette vie, on s'aperçoit que Poussin, quand il leur a raconté ses premières années à Rome, a un peu embelli les choses. Il les a arrangées à sa manière. Et ça, on commence maintenant un peu à le découvrir. Et je vais vous donner un exemple. Il arrive à Rome et Bellori, comme fait les bien disent, il a des lettres de recommandation d'un grand personnage, le cavalier marin qui vivait à Paris, le grand poète italien, des grandes lettres de recommandation pour les principales figures de la vie artistique et politique de la Rome de l'époque. Il arrive à Rome et malheureusement le susdit Marino, cavalier Marino, meurt tout de suite après, à Naples, en 1625. Et les lettres de recommandation étaient adressées à deux personnages cruciaux de l'époque, Cassiano dal Pozzo, que les Français appellent le chevalier Dupuis, dal Pozzo Dupuis, et puis d'autre part, le cardinal Francesco Barberini. Vous savez qu'à cette époque, les Barberini règnent sur Rome, Urbain VIII, etc. Et malheureusement, aussi bien Cassiano que Barberini sont en voyage, l'un en Espagne, puis en France. Donc il arrive, et Marin meurt, et ces deux principaux, les personnages auprès des qui il est vraiment recommandé, ne sont pas là. Donc il y a un récit épouvantable de Poussin qui meurt de misère, il est malade, personne ne l'aide. Enfin, il y a des récits. Alors on s'imagine que ça a été absolument abominable et que ses premières années à Rome ont été très douloureuses et que c'est très lentement, simplement, qu'il a pu conquérir la gloire. Les choses sont, hélas, un petit peu, ou heureusement, pour lui en tout cas, heureusement, se sont passées d'une manière très différente. Il arrive à Rome en avril 1624. Dès février 1626, c'est-à-dire moins de 2 ans après son arrivée, il reçoit la commande du cardinal Barberini de la destruction du Temple de Jérusalem, un tableau qui maintenant est au musée d'Israël à Jérusalem. Donc, moins de 2 ans après, il reçoit, payé très, très bien payé, 61 écus romains, la commande de ce tableau, qui prouve quand même que déjà, moins de 2 ans après son arrivée, les choses vont plutôt très bien pour lui. Et puis, en octobre de la même année, en 1628, il reçoit la commande de la mort de Germanicus, qui d'un jour va faire de Poussin un artiste, non pas le plus célèbre à l'époque de Rome, mais un des artistes en vue. La mort de Germanicus a été un tableau que nous comprenons mal aujourd'hui, mais qui a fait sensation. D'un jour à l'autre, Poussin est devenu célèbre. Il reçoit tout de suite l'année d'après une commande pour Saint-Pierre de Rome. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer quelques détails de la mort de Germanicus. Donc, si vous voulez, cette fameuse arrivée difficile de Poussin à Rome est un peu une légende. Il a eu certainement du mal à se faire connaître très vite, mais c'est allé très vite, sa réputation. Et en gros, il a un peu embelli, il a voulu jouer l'artiste maudit, mal compris, mais je ne lui en veux pas d'avoir pris ce parti. La mort de Germanicus, je vous montre un ou deux détails du tableau, a fait sensation. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois qu'un artiste peignait quelque chose qu'on n'avait pas osé aborder à l'époque, un exemple de vertu. Alors, parce que Germanicus est empoisonné, c'est un phénomène, c'est très injuste de cet empoisonnement est dû à la rivalité de notre général. Et vous voyez sur le tableau lui-même, je reviens marche arrière, on voit sa veuve qui pleure, les généraux, ceux qui veulent le venger, ceux qui au contraire admirent sa mort héroïque. Donc cet exemple de vertu, qui aura une fortune énorme, de l'œuvre de David, de toute la peinture du 18e et du 19e siècle, pour toute cette peinture, la mort de Germanicus est un tableau exemplaire. Et en effet, cet exemplum virtutis, titre d'ouvrage nombreux consacrés, est un tableau qui, d'un jour à l'autre, a rendu Poussin célèbre. Alors vous voyez que c'est un peu cette légende, il faut en limiter le... il faut en limiter la portée. Autre petite anecdote dont on sait maintenant qu'il faut la traiter avec prudence. Poussin est appelé à Paris en 1640 par Louis XIII et par le cardinal de Richelieu. Il est accueilli triomphalement, il se fait un peu prier pour quitter Rome. Il s'est accueilli triomphalement, on lui prête une très jolie petite maison qui est exactement à l'emplacement du petit Arc de Triomphe du Louvre. Il est reçu, il y a une, une, une bourse pleine d'écus qui est posée sur sa table, il y a le feu de cheminée allumé, il y a une barrique de vin, il est reçu triomphalement. Et Poussin lui-même, dans une de ses lettres, dit, dans une de ses lettres qu'il adresse justement à Cassiano dal Pozzo, il dit que le roi, c'est-à-dire Louis XIII, a dit, voilà, voué bien attrapé. La phrase est répétée beaucoup, voué régnait sur la peinture en France à cette époque, il ne pouvait pas voir Poussin, il ne pouvait pas accepter l'arrivée de Poussin à Paris sans avoir certaines craintes pour sa place, tout ça c'était évident. Mais on n'a pas très bien compris ce que voulait dire. D'ailleurs, il n'y a que Poussin qui raconte les anecdotes. Voilà, Poussin, voilà, voué bien attrapé. Et en fait, maintenant, on comprend mieux un petit peu cette phrase assez terrible, et dont Poussin, naturellement, se flatte auprès de Cassiano dal Pozzo. On la comprend mieux parce que quand elle arrive à Rome, là, nous revenons en 1624, Poussin, en effet, elle n'a pas été très bien reçue par les artistes français, notamment, qui occupaient à Rome, à cette époque, une place de tout premier plan. Voué, dont je viens de parler, était prince de l'Académie de Saint-Luc, donc position très officielle. Et à ce moment-là, il y a eu mécompréhension de Poussin et de Voué. Donc cette phrase, voilà, voué bien attrapé, est une manière de vouer, de se venger de ce mauvais traitement que Poussin lui avait donné, lui avait imposé à son arrivée à Rome. Alors je disais, qu'avons-nous appris ? Il faut savoir que sur la littérature sur Poussin, depuis 1960, plusieurs ouvrages sont considérés. Il y a d'abord les catalogues raisonnés. Il y a eu le premier, celui de Blunt, en 1966, le catalogue raisonné de l'œuvre, et puis il y a eu les deux éditions du catalogue raisonné de Jacques Tuillier, qui, comme vous le savez, a enseigné pendant de nombreuses années, ici même, au Collège de France, le catalogue raisonné de 1974 et de 1994. Ces deux catalogues raisonnés, celui de Blunt à 218 numéros, celui de Tuillier 250, ont ceci de différent, si j'ose dire, c'est que Blunt fait un catalogue thématique, qui va de l'Annonciation, ou du moins d'Ancien Testament, jusqu'au paysage, alors que Tuillier se lance dans l'aventure qui a divisé et divise encore aujourd'hui, mais moins qu'autrefois, les historiens, celui de la chronologie. Blunt s'intéresse évidemment à Poussin en tant que peintre-philosophe, enfin il s'intéresse à la pensée de Poussin, à la signification de ses œuvres. Pour Tuillier, l'important c'est aussi l'évolution de sa carrière, car Poussin, comme tous les grands peintres, ne se contente pas de peindre toujours le même tableau et de continuer à peindre ce qu'il avait. Il pense, il évolue, il a une conception de l'homme qui évolue considérablement avec les années. L'homme conquérant du Poussin des années 30-40 n'est pas l'homme dominé par la nature du Poussin des années 50, et par conséquent, ce sont deux conceptions très différentes. Et dans le cas de Poussin, comme dans le cas de tous les très grands artistes, dater un tableau, c'est comprendre celui qui l'a peint, comprendre ce qu'il a voulu dire, et comprendre. Et par conséquent, la querelle a été profonde et les gens se sont considérablement divisés sur ces problèmes de datation qui sont maintenant en grande partie, pas toujours d'ailleurs, résolus. Mon propre catalogue raisonné en comprendra 310 tableaux, donc un peu plus que Blunt et que Tuillier. Pourquoi ? Parce que une chose aussi qu'on n'avait pas tout à fait compris jusqu'à présent, je crois, c'est qu'on aperçoit que Poussin, qui peint peu, qui est un peintre qui peint deux ou trois tableaux à partir du moment où il est archi-connu, à partir de 1630, et où il se réfléchit à chacun de ces tableaux, où il les repense, où chaque tableau est le résultat d'une véritable réflexion, Poussin ne comprend qu'il est le peintre de peu de tableaux et qu'il a besoin de se concentrer sur chacun de ses tableaux, qu'il a besoin de réfléchir à chacun de ses tableaux, ne le comprend qu'à, disons, à partir de 1630. Jusqu'en 1630, il est, comme les peintres romains de l'époque, je répète, quelqu'un qui peint beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre que maintenant. Que Poussin, dans les premières années de son séjour romain, peint beaucoup des tableaux qui ne sont pas toujours d'ailleurs des chefs-d'œuvre, des tableaux qu'il fait trop vite, et des tableaux qu'il reniera assez rapidement parce qu'il a... Mais donc ça, c'est aussi un petit peu quelque chose de nouveau, et qui s'explique aussi par cette phrase, toujours du Cavalier Marin, dont nous parlions tout à l'heure, qu'il faut comprendre dans cette optique. Le Cavalier Marin, qui connaît Poussin à Paris en 1622, dit, ce qui est un des premiers à avoir découvert qui était vraiment Poussin, le qualifie qu'il peint comme una furia di diavolo. Et cette furia di diavolo, c'est un peu contraire à l'image qu'on se fait du Poussin que vous avez vu tout à l'heure, sage, contrôlé, maître de lui. Et c'est un autre Poussin, un Poussin jeune, qui est un peu un Poussin jeune, sur lequel d'ailleurs je reviendrai tout à l'heure, qui peint pas tout à fait comme on pourrait croire. Alors je vais vous présenter un peu dans les ordres, et un peu vite peut-être, quelques nouveautés poussiniennes des dernières années qu'on peut classer dans des catégories très différentes, si vous voulez. Il y a des tableaux dont on connaissait l'existence par la gravure ou par des copies et qu'on a redécouvert. Il y a des tableaux, au contraire, dont on ne savait rien et qui sont apparus. Et puis, il y a donc des nouveaux tableaux, si j'ose dire, ça je vais me parler aussi. Il y a des tableaux dont on ne savait pas si laquelle des versions revenait vraiment à Poussin. Quand il y avait plusieurs versions, il fallait se décider pour en trouver. Et donc, c'est des confrontations. Il y a des problèmes qui sont liés à la chronologie. Il y a des problèmes qui sont liés à l'interprétation des sujets, qui parfois a changé. Je vais vous donner des exemples, bien entendu. Donc, vous voyez que les questions que se posent les poussinistes ou les poussinistes, sont nombreuses. Il y a évidemment tout ce qui concerne les mécènes, les commanditaires. De nouveaux mécènes sont apparus. Enfin, on a découvert le nom de nouveaux mécènes. Vous verrez, je vous en dirai quelques mots. Et puis, évidemment, je vous ferai un petit récit. Ce ne sera pas tout à fait ma conclusion. Ma conclusion sera que reste-t-il à faire ? Il reste beaucoup à faire. Et il y a bien sûr aussi, évidemment, cette période d'avant 1624 sur laquelle, évidemment, les choses ont beaucoup évolué, beaucoup progressé. Alors, je vais vous montrer tout de suite quelques tableaux qui sont apparus dernier temps. Le premier, vous le connaissez. Non, je suis allé un peu vite. Là, c'était une illustration que j'aurais dû vous présenter avec le séjour de Poussin à Paris en 1640-42. Il peint pour le roi ce tableau très difficile, très ambitieux au point de vue de son interprétation, peu aimé, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Donc, ça, je voulais dû vous montrer aussi, quand je parlais des catalogues raisonnés. Ça, c'est la couverture du catalogue raisonné des dessins, qui, comme il est fait maintenant, donc le catalogue raisonné des dessins est derrière moi, si j'ose dire. Il me reste encore devant moi le catalogue raisonné des tableaux. Et puis, voilà donc le tableau que le Louvre a acheté en 1999, la Sainte-Françoise romaine, qui est un tableau dont on connaissait l'existence, bien sûr, par la gravure, mais dont on avait perdu la trace, mais et sur lequel... professeur aussi du Collège de France, Marc Fumaroli, que j'ai vu hier soir, c'est sur lequel Marc Fumaroli, que vous avez peut-être entendu ici même dans les années passées, s'y est intéressé. Un mot simplement sur ce tableau, parce qu'on ne sait pas exactement pour qui il a été peint, sans doute Rospigliosi, le futur pape Clément IX, ça c'est très vraisemblable, mais on ne sait pas très bien ce qu'il montre, parce qu'il y a deux interprétations. Parce que la dame dans le ciel, est-ce que c'est Sainte-Françoise romaine, la sainte de Rome, bien sûr, qui remercie la Vierge d'avoir pour célébrer la fin de la peste. Vous voyez d'ailleurs sur la gauche du tableau le cadavre porté par... je ne sais pas si on voit bien sur l'image, l'homme qui porte le cadavre a des yeux rouges extraordinaires, des deux pointes rouges très impressionnantes. Alors, est-ce que c'est Sainte-Françoise romaine qui remercie la Vierge pour la fin de la peste à Rome en 1657? Ou est-ce que c'est au contraire, ça c'est l'interprétation de Marc Fumaroli, une Barberini qui a été sanctifiée, qui, elle, remercie Sainte-Françoise romaine d'avoir fait cesser la peste. Vous voyez que ce tableau, qui est un tableau, si j'ose dire, qu'on a toujours connu jusqu'à ce qu'il réapparaisse, si j'ose dire, par la gravure, qu'on connaissait déjà, n'a pas livré son dernier mot quant à l'interprétation de son sujet. On ne sait pas non plus très bien si vraiment il a été peint pour Rospigliosi, et surtout pour où a-t-il été peint. On a du mal à... On n'a pas retrouvé, on n'a aucune trace sur ce... aucun guide de Rome ne le signale. On ne sait pas où le cardinal Rospigliosi le gardait, sa chapelle privée peut-être, on ne sait pas très bien. Donc voilà, c'est un tableau qui est apparu donc tout récemment. Je vous en montre deux également. Celui qui a été acheté il y a peu de temps par le musée des Beaux-Arts de Lyon, qui maintenant est un des musées français qui possède deux Poussins, il n'y en a pas beaucoup, mais en général, Poussin est bien, admirablement bien représenté au Louvre et médiocrement représenté dans nos musées de province. J'aurais dû dire auparavant que je parle beaucoup de Rome, je vous ai parlé de Montaigne tout à l'heure, mais en fait, j'ai oublié de vous dire l'essentiel, c'est qu'en fait, Poussin est un peintre anglais. Les Anglais ont adoré Poussin, ils l'ont collectionné avec abondance, et encore aujourd'hui, l'Angleterre est le pays qui possède le plus grand nombre de tableaux de Poussin. Les Anglais l'ont compris et l'ont admiré. Et je vous ai parlé de Blunt et de Mahon, qui sont deux historiens d'art anglais, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'Anglais qui sont de très bons spécialistes de l'artiste. Alors voilà un tableau nouveau que le musée de Lyon a pu acheter. Mais par exemple, les historiens d'art se disputent beaucoup sur cette colonne que vous voyez sur la gauche du tableau. Que veut-elle dire ? Elle a un sens, je pousse un tout, veut toujours dire quelque chose. Alors, est-ce que c'est la frontière qui permet de dire, ça y est, nous avons pu quitter ce pays qui nous a persécutés, et nous, voilà, nous sommes abrités, est-ce que c'est la frontière ? Et bon, qui explique un peu le sourire de la Vierge. Vous pouvez aussi voir l'âne qui connaît son chemin. Il est tout seul, il connaît son chemin. Il y a le grand ange qui le guide, mais non, il guide tout ça chez Poussin. Est très touchant, très émouvant, et ne peut pas laisser indifférent. Et puis un autre tableau qui est apparu, qu'on appelle la Sainte Famille à l'éléphant, qui est un tableau. Alors, la Sainte Famille, Poussin a beaucoup aimé ce thème qu'il a toujours traité, chaque fois en variant. Et puis, je vais vous montrer quelques nouveaux tableaux qui sont sortis du néant. Celui-là qui m'a fait beaucoup de peine, qui a été acheté par le Louvre, et le Louvre a été obligé de le rendre parce que nous ne l'avions pas payé assez cher. La presse, c'est devenu un classique, ce tableau, parce que le procès auquel il a donné lieu, que le Louvre a perdu après 10 années de procédure, c'est ce qu'on appelle l'arrêt Saint-Aroman. Et ici, il y a des juristes dans la salle. Les juristes n'ont jamais entendu parler de Poussin. Tous connaissent l'arrêt Saint-Aroman, qui, dans le domaine judiciaire, a été un retournement de la preuve. Le tableau a appartenu au Louvre, il ne lui appartient pas. C'est un sujet assez touchant, là aussi, vous voyez, c'est Olympos et Marsyas, et on s'aperçoit que Olympos écoute un instrument de musique qu'il a inventé, mais naturellement, quand il le joue, il ne s'entend pas, alors que là, il l'écoute. Et il se dit, c'est pas si mal mon instrument de musique que j'ai inventé, c'est plutôt bien. Et alors il écoute, et donc c'est l'idée de comment peindre la musique qui est en jeu. Alors ça, c'est un tableau, je vous le montre, et qui appartient justement à Jeff Koons, dont je parlais tout à l'heure, un tableau qui est apparu. Ce sont les tableaux jeunes de Poussin, des tableaux peints dans sa jeunesse, et j'en reviendrai sur des tableaux de cette période très, très, très bientôt, dans les prochaines secondes. Et puis, je vais vous montrer aussi deux autres tableaux, ou du moins un dessin et un tableau. Et c'est assez intéressant. On sait maintenant qu'un des premiers collectionneurs de Poussin s'appelait Filomarino, et il sera cardinal sur le tard de sa vie. Il forme sa collection à Rome avant de partir pour Naples. Et ce dessin, quand nous avons fait le catalogue raisonné des dessins de Poussin, nous embêtait parce que Poussin a peint un Christ guérissant les aveugles qui était au Louvre, que vous verrez tout à l'heure. Et ce dessin nous embêtait parce que le tableau du Louvre, on en sait la date assez précisément, et ce dessin paraît bien plus tôt. Donc nous avons écrit, sans y croire, que c'était un dessin préparatoire pour ce tableau. Et voilà. Donc, mais on n'était pas très heureux de nous, de cette manière de décrire le dessin. Et puis on s'est aperçu que ce monsieur Filomarino possédait un tableau de ce sujet, donc un Christ guérissant l'aveugle, que ce tableau, comme d'ailleurs le suivant, mais je vous dirai pourquoi c'est pas tout à fait ça, donc ont appartenu à cette famille Filomarino, et que les tableaux Filomarino ont été tous détruits en 1799 au moment des révoltes de Naples contre les Français qui occupaient la ville. Par conséquent, on sait maintenant que le dessin que je vous ai montré est le dessin préparatoire pour un tableau qui a été détruit en 1799. Et puis l'autre tableau, et longtemps on a cru, tout n'a pas brûlé chez les Filomarino, et celui-là, il a survécu. Et puis on s'est aperçu que, en fait, si le tableau Filomarino, que le tableau Filomarino est lui aussi détruit, et que ça, c'est que le tableau que vous avez sous l'écran, sur l'écran, est la copie du tableau disparu. Donc voilà comment lentement Poussin reprend les os de Poussin. La chair commence à occuper plus de place. Donc voilà des tableaux nouveaux. Et puis, comment est-ce qu'on arrive parfois à être sûr qu'un tableau est vraiment l'original ? Les historiens d'art se sont beaucoup disputés dans les années 70-80 autour de ces deux tableaux. L'un est, vous voyez, à Cleveland, l'autre à Washington, ce sont exactement les mêmes compositions. Et pour une fois, Blunt et Mahon étaient d'accord pour défendre le tableau de Washington. Et pour Thuillier, pour le citer, défendait farouchement le tableau aujourd'hui à Cleveland, j'ouvre la parenthèse, sorti clandestinement de France. Et je ferme la parenthèse. Et donc, grande dispute, il y a eu des articles pour défendre l'un ou l'autre tableau, des analyses laboratoires, tout ce qu'on utilise pour convaincre. Et puis, les gens de Washington, à un moment, ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont donc fait venir le gratin des poussinistes à Washington, avec évidemment l'idée d'une confrontation entre les deux tableaux. Et alors là, c'est passé quelque chose de très simple, c'est qu'exactement en une seconde, tout le monde s'est mis d'accord pour dire c'est Cleveland le bon. Donc, qu'allions-nous faire du reste de la journée ? Tout avait été dit. Alors, il a fallu, pendant le reste de la journée, parler de petites questions. Qui avait pu faire la copie ? Est-ce qu'on peut savoir si cette copie est faite en France par l'analyse de la toile, par l'analyse des pigments colorés ? Mais c'est là que l'on voit que c'est en fait l'œil qui reste l'élément déterminant, décisif, pour faire une attribution, surtout dans un cas de confrontation qui est l'exemple le plus classique. Oui, alors là, je vais évidemment vous montrer ce tableau, qui est le premier poussin qui soit entré au Louvre, et aussi le 40e poussin des collections du Louvre, qui a été longtemps considéré comme une copie, et que j'ai pu réhabiliter assez récemment d'une manière absolument certaine, là aussi, en partant évidemment d'abord de l'œil, puis en découvrant les documents d'archives qui prouvent qu'il est entré dans la collection de Louis XIV en 1671, avec provenant de la collection d'un monsieur qu'on connaît mieux maintenant, qui s'appelait Lafeuille, et un tableau très tôt, évidemment, un tableau déjà très poussinien, mais drôle, si j'ose dire, parce que vous voyez, elle lui fait les cornes. Elle lui fait les cornes parce qu'en fait, ce n'est pas Mars qui l'intéresse, c'est Adonis que vous voyez au fond. Tout à fait au fond, il y a Adonis. Donc, elle est très contente avec Mars, mais en fait, elle pense déjà plus à Adonis. Donc, la mythologie peut être chez lui assez coquine. Je vous parlais en effet de ces nouvelles attributions. Là, je vous montre deux tableaux coup sur coup, l'un à Londres, l'autre à Zurich. Des tableaux qui ont été unanimement refusés par les trois grands poussiniens dont je parlais, Blunt, Mahon et Thuillier, unanimement refusés pour des raisons assez faciles à comprendre. Ce sont des tableaux évidemment érotiques. Sur un des deux tableaux, le satyre qui est au fond, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, mais j'ai quand même l'impression qu'il se masturbe. Donc c'est quand même des sujets assez forts. Vous voyez, c'est assez clair qu'il est caché par un arbre. Et c'est les poussiniens, les trois poussiniens, les grands spécialistes de poussins, que j'ai tous les trois admirés profondément, ne pouvaient pas admettre l'idée d'un poussin érotique. Ça n'allait pas avec leur image. Ils en étaient restés au poussin de tout à l'heure, vous voyez, digne. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. En plus, si vous voulez, tous les trois, alors là, j'entre dans des un peu plus personnels, tous les trois, c'était l'idée d'un poussin érotique, c'est tout à fait contraire à, non seulement à ce qu'ils pensaient être poussin, mais aussi à ce qu'ils étaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas accepter l'idée que leur héros puisse être livré à des coquineries pareilles au début de sa vie. Donc, ces tableaux, maintenant, je répète, les deux tableaux de Londres et de Zurich sont aujourd'hui, par la plus jeune génération, acceptés sans réticence. Donc, si vous voulez, c'est une page tournée et acquise. Mais l'idée du poussin érotique est toute nouvelle. Alors, je vais vous montrer aussi, je vois que la pendule, je vais aller très vite là maintenant, trois tableaux. Londres, ce sont ce qu'on appelle les bacchanales Richelieu. Kansas City, là, il y a une erreur de légende, c'est Kansas City, c'est Londres, et c'est Londres également. Il y a une légende qui est fausse, mais ça. Ces trois tableaux ont pas eu de chance. Celui de Londres a toujours été accepté par tout le monde sans aucun problème. Celui de Kansas City, que je l'ai défendu très très tôt, après l'avoir vu à Kansas City, sans être suivi ni par Blunt, ni par Thuillier, ni par Mahon. Et puis le troisième, celui de le Silène, alors là, il est de toute récente. Alors, il a été rejeté absolument par tout le monde, à l'exception d'un historien d'art que j'aime beaucoup et que France Passeviat aime aussi beaucoup, et qui est spécialiste de Raphaël, qui est M. Ioannidès. Ioannidès a été un des tout premiers à dire « ce tableau-là est aussi de Poussin ». Alors là, comment est-ce qu'on est arrivé au résultat clair que les trois tableaux sont de Poussin ? Tout simplement parce qu'on a fait des analyses d'étoiles et qu'on s'est aperçu que non seulement les trois toiles, les trois tableaux sont identiques, mais ça prouve, les copies auraient pu être aussi sur des toiles, mais surtout que ce sont trois morceaux d'une immense toile. C'est-à-dire qu'on est arrivé à prouver que les trois tableaux... Alors, tout naturellement s'est remis en place. Le tableau de Kansas City, si longtemps refusé, on s'est aperçu qu'il avait exactement la même historique que celui de Londres. Donc, tout s'est... Mais en fait, là, si vous voulez, pour une fois, je rends hommage au laboratoire et aux scientifiques qui ont conforté ce qui n'était jusqu'alors que du domaine de l'hypothèse. Donc, ces trois tableaux sont maintenant des acquis poussiniens. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Ça, c'est pour des questions qui tiennent aux dates. Là, par exemple, c'est ces deux tableaux magnifiques que vous avez peut-être vus récemment à Paris à l'exposition Poussin et Dieu, dont j'aurais dû parler plus tôt, qui a eu lieu au Louvre. Ces deux tableaux magnifiques, on les croyait peints après 1642, après le retour de Poussin en Italie, et des documents d'archives ont prouvé que leur commanditaire les avait acquis avant le départ pour l'Italie, ce qui d'ailleurs pose une autre question, elle, non résolue. Est-ce que Poussin avait l'intention de peindre les quatre évangélistes, ou est-ce qu'il n'a pas eu le temps de peindre les deux derniers, notamment à cause de la mort du commanditaire, ou est-ce que le projet de départ n'était que deux tableaux ? Autre question restée ouverte. Et là, je vous montre évidemment cet immense chef-d'œuvre, cet tableau absolument admirable sur le Diogène. Et là, évidemment, les problèmes de date sont absolument cruciaux. Il y a je n'entre pas dans les détails. Je fais bien le date de 1648. Et beaucoup d'historiens d'art, j'en suis de ceux-là, mais il y en a beaucoup qui ne partagent pas ce point de vue, ne peuvent pas croire que ce tableau qui montre le renoncement au bien de ce monde, enfin, Diogène trouve quelqu'un d'encore plus, qui a encore plus renoncé, puisqu'il boit dans sa main, et alors que Diogène continuait de boire dans une écuelle. Donc ce tableau qui est extrêmement... c'est le renoncement au bien de ce monde. Ce sont des idées de Poussin dans les années 50, ce ne sont pas des idées de Poussin dans les années 40. Donc vous voyez, la chronologie là repose sur des éléments, la date qu'on fixe au tableau repose sur des éléments qui sont liés au style de Poussin, la manière dont il peint, qui évolue naturellement aussi, mais aussi la manière dont sa pensée évolue. Donc vous voyez que chez lui, ses problèmes, tout est imbriqué, tout est imbriqué. Oui, je vais vous montrer encore rapidement quelques petits problèmes. C'est un tableau dont le sujet longtemps a échappé. Et maintenant, Anne Sutton Lantaris, une grande spécialiste américaine, a pu prouver qu'il s'agissait de Vertum et Pomone. Et là, voilà un tableau où je me suis trompé. On appelait ce tableau pendant très longtemps Numa Pompilius renonçant au bien de ce monde. Numa Pompilius et la nymphe Égérie. Et dès l'exposition des Poussins du musée Condé de Chantilly de 1994, une assistante de cette exposition m'avait mis en garde. Elle m'a dit « c'est pas ça le sujet, regardez bien ». Et en effet, c'est maintenant l'histoire merveilleuse de Midas transformant en or le rameau du Mieux. Vous savez, Midas obtient le privilège enfin, tout ce qu'il touche devient de l'or. C'est le vœu qu'il avait exprimé, qu'il souhaitait. Tout ce qui touche vient de l'or, et il s'aperçoit très vite que le résultat sera qu'il sera mort de faim et de soif très rapidement. Donc il revient là, et là il touche cette œilleuse, il s'aperçoit qu'elle vient de l'or, mais il n'a pas encore compris que ce miracle est en fait le condam à mort. Alors, ce sont donc là des nouvelles. Là aussi, je vous le montre, non pas tellement parce que le tableau, vous le connaissez tous, évidemment, les bergers d'Arcadie, mais parce qu'on sait maintenant qui en est le commanditaire. Monsieur Avis, qui était un ingénieur militaire de Louis XIV, et qui commande ce tableau, qui évidemment, vous voyez. Mais regardez-le bien, ce tableau. Parce qu'on a mis très longtemps à distinguer sur ce tableau l'ombre qui est sur le tombeau. Vous voyez, une ombre sur le tombeau. Elle a la forme d'une faux. C'est quand même impressionnant, une faux. Pour un tableau qui montre à quel bien que la mort est là, même en Arcadie. Donc cette faux qu'on a mis longtemps à voir, et elle est évidente, et elle donne encore à ce tableau, qui est une réflexion évidemment sur celui qui découvre la mort, celui qui sait qu'elle est là, et celui qui a surpassé déjà, qui a réfléchi à cette mort et qui en a pris la mesure. Cette faux, naturellement, conforte encore l'interprétation du tableau. Ça, je vous montre une gravure justement de ce monsieur Avis, qui était aussi graveur. Je voulais faire un petit paragraphe, mais je le saute très vite, sur les tableaux publiés jusqu'à présent par les spécialistes de Poussin comme de Poussin, et que je refuse, parce que naturellement chacun met son petit grain de sel dans ces choses-là. Ça, c'est un tableau qui est à Chantilly, mais auquel je ne crois absolument pas. Et puis là, je voulais entrer dans cette période de Poussin, avant d'arriver très vite à ma conclusion, dans Poussin avant 1624, avant Rome. On ne savait rien sur Poussin avant Rome. Et il y avait une grande querelle qui a opposé vraiment violemment les historiens d'art anglo-saxons et les historiens d'art français et italiens. Pour les anglo-saxons, Poussin, quand il arrive à Rome, il a 30 ans, ne sait rien. Il ne sait pas peindre, il ne sait rien. Pour les Français, au contraire, l'idée était qu'avant 1624, il a 30 ans, il savait déjà peindre. Alors, il fallait évidemment un peu régler cette querelle. Et on ne savait rien. On savait qu'il avait peint un tableau, une mort de la Vierge pour Notre-Dame, quand même prouve déjà une certaine réputation, mais elle avait disparu. Alors, un de mes collègues belges l'a retrouvé dans cette église tout près de l'aéroport de Bruxelles, Sterbeek, et a retrouvé cette marche de la Vierge que vous avez là et que vous avez vue sans doute à l'exposition Poussin et Dieu. Donc, c'était déjà un tableau retrouvé. Et puis, le hasard a fait qu'un tableau que j'avais publié avec Mahon, d'ailleurs, comme pouvant être de Poussin et qui était dans le commerce en Angleterre, c'était une hypothèse, elle était fragile. Et puis une chercheuse, Henriette Pommier, je cite son nom avec plaisir, a retrouvé les documents d'archives, que ceux qui n'étaient que du domaine de l'hypothèse, ça c'est le dessin préparatoire pour le tableau, a été confirmé par les documents. Vous voyez, je vous présente l'inventaire après décès de M. Reynon, qui avait d'autres Poussins, dont deux sont aujourd'hui au Louvre. Et puis je vous montre même un petit document qui est une signature de Poussin. Alors la mort de Quionnet, évidemment, c'est un tableau assez impressionnant. Quionnet se croyait plus belle que Diane. Diane était jalouse et elle lui jette une flèche, ce qui lui perce la langue, et elle meurt. Donc vous voyez Quionnet entouré de ses enfants, de son oncle, etc., etc. Donc un sujet assez impressionnant et un très beau tableau qui vient mettre fin à un conflit qui a duré longtemps. Poussin, avant d'aller à Rome en 1624, savait peindre. Je vous montre deux tableaux qui ont appartenu au même Reynon, donc un de nouveaux mécènes qui possédait plusieurs Poussins, qui sont deux tableaux. Et je vous montre le Christ guérissant des aveugles de Jéricho de M. Reynon, qui n'est pas, donc, vous voyez, le même tableau que celui qu'il avait peint pour Philomarino. Je passe un peu rapidement sur tout ce problème de Poussin à Rome, à Paris avant 1624, pour en arriver à quelques questions qui restent en suspens. Là, vous avez un tableau bien connu qui est à Delitzsch. Je n'ai pas trouvé, et peut-être dans l'assistance quelqu'un m'aidera, je ne sais pas quelle est la ville représentée. C'est évidemment une ville italienne, elle est certainement liée au commanditaire du tableau qu'on ne connaît pas. Et quelle ville? Alors j'ai écrit, évidemment, j'ai regardé tout ce qu'on a pu comme gravure, j'ai essayé de trouver cette ville, est-ce que c'est Spolète, beaucoup d'hypothèses ont été émises. Donc voilà, il faut que vous m'aidiez à trouver cette ville, c'est pour vous dire qu'on ne sait pas tout sur Poussin. Et puis, alors là aussi, c'est un tableau merveilleux que vous connaissez, chez Reynon, un tableau terrible, avec cet homme qui est tué par un serpent au premier plan. Chez Poussin, un tableau comme ça a un sujet. Et on ne peut pas se limiter, comme nous le faisons tous, à dire que c'est un homme tué par un serpent. Il y a certainement un texte. Personne ne l'a retrouvé à ce jour. Et un texte, où Poussin est-il allé le chercher? Parce que ça, c'est tout de suite une autre question. Poussin vient d'un milieu modeste. Il parle latin, il fréquente les plus grands esprits de la Rome du XVIIe siècle, la cour des Barberini. Je l'ai dit, c'est un lecteur de Montaigne. C'est un homme qui s'est cultivé extraordinairement, qui avait lu tout ce qu'il fallait lire, qui avait interprété les textes pour en extraire les sujets de ses tableaux. Mais cette érudition immense, comment l'avait-il acquise? C'est bien de dire que ce sont les jésuites à Paris qui lui avaient donné quelques cours, c'est pas suffisant. Et donc pour ce tableau-là, nous n'avons pas retrouvé le texte qui convient. Alors je voudrais conclure tout simplement sur ce tableau absolument admirable, en vous lisant deux petits poèmes, conclure avec deux images encore qui suivent. En vous lisant un petit poème, je lis très très mal. Celui dont les pensées, comme les alouettes, vers les cieux le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. C'est un poème de Baudelaire. Et puis l'autre petit texte, qui est d'un historien d'art anglais, Hazlitt, 1823, sous ses pinceaux, les mots se transforment en images, les pensées deviennent réalité. Je crois que c'est assez bien dit, et que pour Poussin, en effet, c'est assez bien dit, cette ambition extraordinaire qu'il a eue, et de faire ce qu'aucun peintre n'a osé faire, justement, de transformer les mots en images et en réalité, et le faire avec ses pinceaux et non pas avec des mots. Alors, je voudrais vous montrer en conclusion deux petites photos. C'est l'hôpital des Anglis, la ville natale de Poussin. Et en principe, je croise les doigts et j'espère que vous m'aiderez tous, ça devrait devenir dans les prochaines années le musée Nicolas Poussin aux Anglis, sa ville natale. Le peintre, je crois, le mérite. Et ça, c'est une autre photo de ce merveilleux bâtiment qui était hôpital et qui est maintenant, en principe, destiné à devenir le musée Nicolas Poussin. Merci beaucoup.
Nous remercions infiniment Pierre Rosenberg pour cette leçon magistrale qui a ouvert et pourrait même être la conclusion de notre colloque, parce qu'il a précisément mis devant nos yeux et notre mémoire tout ce qu'une transmission comporte. D'abord, le corpus de l'auteur qui est mobile, qui est élargi, qui est retrouvé, qui est discuté. L'histoire de la critique d'art, les trois grands maîtres qui ont été évoqués, Sauerländer, Blount, Tullier, ce qui reste à faire, c'est vraiment une leçon de méthode dont nous lui sommes très reconnaissants et comme nous l'avons vu, en effet, Poussin en même temps hérite du mythe, transforme des mots en images, vous l'avez très bien dit, mais aussi il y a des auteurs, des poètes qui transforment des images en mots. En effet, tout était réuni, c'est presque, je dirais, le cœur même de ce que l'enseignement devrait être, ouvert évidemment au présent, mais en héritant tout ce qu'il est possible du passé, avec aussi les problèmes qui sont posés pour l'avenir. Et alors, nous nous chargerons aussi de regarder quelle ville, est-ce que c'est Cacha, peut-être, simplement, il faudra voir. Mais voilà, encore du travail à faire, c'est ce qui est plus consolant dans la recherche, pourtant immense, de Pierre Rosenberg autour de Poussin. Merci infiniment de cette magnifique leçon historique, leçon de méthode, et aussi, de bonheur de la recherche. Le bonheur de la recherche. Je suis vraiment très reconnaissant. Je voudrais dire que pour la suite, je me sentais, mais je pense que tout le monde a eu la même impression, comme le protagoniste du grand roman de Thomas Bernhard, Die Alte Meister, comme ceux qui vont tous les dimanches à la même heure voir le même tableau de Tintoretto, dans ce cas de Poussin. Merci infiniment.